Vous vous êtes jamais dit en regardant votre vie spirituelle ou en assistant à une célébration ou un culte du dimanche matin qu'il doit y avoir plus que ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous lisez l'écriture, vous dites mince, il devrait y avoir quand même que ça. Juste. Et je me dis parfois que ce que je vis dans ma vie spirituelle n'est pas à la hauteur des promesses que j'ai reçues de Dieu. Après que les disciples aient vu le Christ glorifié monter auprès de son Père, ils ont dû se dire, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et vous vous souvenez, ils regardent le ciel et il y a un ange qui leur dit derrière, qu'est-ce que vous faites? Que regardez-vous? Que regardez-vous? Il doit bien y avoir autre chose. Et là, ils sont en proie à toutes sortes de persécutions, séparés de celui pour qui certains étaient prêts à mourir. Enfin, en parole plus qu'en acte, si vous voyez à qui je fais référence, à Pierre bien sûr. Ils sont tout seuls. Jésus-Christ, il est monté au ciel. Et ils se regroupent et puis ils se mettent à prier tous ensemble. Jésus leur avait promis plus que cela. Certes, ils l'ont vu ressusciter et ils s'en sont réjouis d'ailleurs. Et c'est là où ils ont commencé à croire en Jésus. Comme il y a avant, ils étaient. C'est Max Donner qui nous disait ça et a raison. Avant, les disciples étaient incroyants à Jésus-Christ jusqu'à sa résurrection. Et quand Jésus ressuscite, ils croient. Ils commencent à croire. Et puis, il semble même que les disciples, après le départ de Jésus, soient retournés à leurs activités habituelles, avant que Jésus ne les appelle de nouveau. Jean 16, 12, 15. Jésus dit à ses disciples avant de mourir, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. » Et il était en train d'annoncer sa mort et le fait qu'il serait séparé deux, et puis après sa résurrection. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Quelque chose allait bouleverser la vie des disciples le jour de la Pentecôte. On a lu les textes ce matin. Mais ça va bouleverser leur vie encore plus que lorsque Jésus était avec eux. Ils allaient recevoir le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Avocat, le Paraclet, l'autre Paraclet, dit Jésus dans Jean. Il parle, lui, Jésus est Consolateur, mais il y a un autre Consolateur qui va venir, quelqu'un qui lui est semblable. Cet associé, on peut le traduire aussi, l'aide que Jésus leur avait maintes fois promise, comme dans ce texte de Jean 16. Il le dit au verset 7, un peu plus haut, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Saint-Esprit en nous, c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus fait et que Dieu a fait à son peuple. C'est pour cela que Dieu est venu parmi nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il le dit bien, pour que nous recevions le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est le centre. Et le titre, c'est « Dieu en nous ». Dieu en nous. Colossiens 1:27, c'est le verset préféré de Pierre Guillot. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui ne peut pas nous laisser indifférents. Bon, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Bon, Christ, on peut dire Christ, Dieu pour nous, d'accord ? Dieu avec nous, on peut l'admettre, mais Dieu en nous. Qu'est-ce que ça change ? C'est à ça qu'on croit, frères et sœurs. C'est le principe de notre foi. Dieu en nous, par l'Esprit Saint. Il y a une promesse qui avait été faite par les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu a fait des promesses à son peuple à ce sujet. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et vous avez un texte qui lui est semblable en Jérémie 31, versets 31 à 34. C'est plus extraordinaire que de voir les 10 plaies d'Égypte s'abattre sur un peuple ennemi, que de traverser la mer Rouge à pied sec, ou que d'être en présence de Dieu et de recevoir les tables de la loi, frères et sœurs. Que d'avoir Dieu en nous. Le prophète Joël, cité par Pierre le jour de la Pentecôte, pour justifier ce qui arrivait, écrivait « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et Jésus avait dit à ses disciples avant de monter auprès de son Père en acte 1, « Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu en nous a commencé le jour de la Pentecôte. Don fait à l'Église. Alors, qui est-il, ce Saint-Esprit ? Un homme et sa femme sortent au restaurant pour fêter leur 10e anniversaire de mariage. Et puis, alors que le serveur s'approche pour leur remettre les menus, vous savez, comme on fait d'habitude, la dame, elle lorgne sur les autres tables les plats des voisins pour voir ce qu'ils ont commandé. Et puis, tout à coup, elle donne un petit coup d'œil à son mari et elle lui dit « Chérie, retourne-toi, regarde. Je crois que c'est Victor Hugo qui est à la table à côté. » Son mari regarde, il dit « Chérie, dit, tu sais bien que Victor Hugo est mort depuis longtemps. » Et puis la dame, elle est en proie à un certain doute, et puis elle regarde encore une deuxième fois, et puis elle réplique « T'es sûr ?» Puis quelques secondes plus tard, elle donne un autre coup de pied à son mari. Elle dit « Non, regarde, il a bougé. » Le Saint-Esprit, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Et ce n'est pas un jeu de mots que je fais, hein. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Le Saint-Esprit, parfois, on dit, bah oui, boum, on est rempli du Saint-Esprit. Hein. Non, c'est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, qui est-ce ? C'est un grand inconnu, c'est un fantôme. Holy Ghost, les Anglais disent. Hein. Le Saint-Esprit, c'est dans la tête de beaucoup de gens quelque chose de nébuleux qui est parfois sans grande importance parce que c'est inaccessible. La Bible nous dit que c'est quelqu'un, et quelqu'un qui nous est très proche. Nous tous, dit Paul en Corinthiens 3:18, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel nous pouvons endosser notre nouvelle nature. Étienne parlait de l'homme pécheur. Mais nous avons une autre nature que celle de l'homme pécheur. Notre nouvelle nature, c'est l'homme juste, justifié par le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes justes. C'est notre nouvelle nature, c'est d'être saint, comme Dieu est saint, parce qu'il habite en nous. Il a fait sa demeure dans notre temple, qui est notre corps, le temple du Saint-Esprit. C'est ça qu'il réalise en nous, et il nous rend tout doucement semblables à Dieu. Il met en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous avons eu parfois tendance à confiner l'Esprit Saint dans la Bible, comme si la Bible était l'Esprit. Et certainement, la Bible, elle est entièrement inspirée par l'Esprit. Elle a inspiré, l'Esprit Saint a inspiré chacun des auteurs de la Bible. Et c'est extraordinaire parce qu'il n'y a qu'un seul auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Mais si on cantonne l'Esprit Saint à l'Écriture, il y aurait le Père, le Fils et la Bible. Non, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nombreux sont ceux qui se sentent mal à l'aise lorsqu'on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, parce que pour certains, l'Esprit Saint, c'est une force divine, englobant tout, et puis déterminant le cours des événements humains, quelque chose qui nous prend. Alors on est un peu mal à l'aise. D'autres conçoivent l'Esprit Saint non comme une force impersonnelle, mais comme une personne, un agent envoyé par Dieu pour accomplir sa volonté, en quelque sorte, un des anges principaux. Et puis, pour d'autres encore, l'Esprit est simplement un autre nom du seul vrai Dieu, un nom qui souligne sa nature invisible. En réalité, toutes ces différentes façons de parler de l'Esprit-Saint sont inexactes, parce qu'elles enferment l'Esprit-Saint dans nos propres pensées, alors que le Saint-Esprit, il souffle où il veut, dit Jésus à Nicodème en Jean 3. L'Esprit Saint, ce n'est pas une simple aide. Il est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu de la même manière et au même niveau que le Père et le Fils Jésus-Christ. Il y a différentes références à l'Esprit Saint qui sont interchangeables à celles faites à Dieu, comme dans Actes 5, 3 et 4, avec l'épisode d'Ananias et Saphira. Vous connaissez cet épisode qui ment à propos de la vente d'un champ. L'Esprit Saint est associé au Père et au Fils sur une base d'égalité en Matthieu, chapitre 28, verset 19. Et il partage la même divinité et possède les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Fils. La Bible nous dit en Hébreux, chapitre 9, verset 14, qu'il est éternel. Il est aussi omniscient, 1 Corinthiens 2, 10. Il est omnipotent, Luc 1, 35. Il est omniprésent, dans les psaumes 139, versets 7 et 8. Il garde sa propre personne. Alors, je connais mon Père à travers Jésus-Christ qui me l'a fait connaître. Je connais Jésus parce que je peux lire les Écritures et je peux voir sa vie. Mais est-ce que je connais l'Esprit Saint ? La Bible nous dit que on peut lui mentir, qu'on peut lui résister, qu'on peut le tenter, qu'on peut l'attrister, l'outrager, faisant parfois la distinction entre le Christ et le Saint-Esprit à ce sujet, en parlant du blasphème contre l'Esprit Saint, si vous vous souvenez du passage. Alors pourquoi on a tendance à mettre en doute la personnalité du Saint-Esprit ? Le fait qu'il est comparé à des réalités impersonnelles dans la Bible, eau, vent, feu, ça ne constitue pas un argument, parce que Jésus lui-même se compare à la lumière, au pain, à un chemin, à une porte. C'est plutôt un motif psychologique, je crois, qui nous empêche de comprendre le Saint-Esprit, et qui peut expliquer, pas justifier, la difficulté que certains éprouvent à l'égard du Saint-Esprit. En général, pour en être conscient d'une relation personnelle avec quelqu'un, il faut la voir en vis-à-vis. J'ai une relation personnelle avec Marie, j'ai une relation personnelle avec Jean-Pierre, je l'ai en vis-à-vis. J'ai une relation personnelle avec Dieu parce qu'il est le tout autre, même si je ne le vois pas, mais avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ. Oui, je connais sa vie, mais le Saint-Esprit, c'est difficile, parce que le Saint-Esprit, il habite en moi. Il habite en vous. Et on n'a pas de mal à se faire une image de Dieu le Père. Certains voient un barbu, c'est des anthropomorphismes. Jésus-Christ, c'est le charpentier, mais le Saint-Esprit. Comment on imagine ? Il existe en dehors de nous, mais il existe aussi en nous. Et donc, on n'a pas au même degré l'impression d'être vis-à-vis de lui. Et du coup, son caractère personnel, il ne nous est pas évident. Il existe une certaine tension aussi concernant le Saint-Esprit, puisque Jésus-Christ est le centre de notre foi. On peut facilement ignorer l'Esprit et puis le traiter comme s'il n'existait pas. Et en plus, on l'a dit, et c'est ce qu'on a fait ce matin à juste titre, et c'est parce que le Saint-Esprit nous y a conduits. On a glorifié Jésus-Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ dans l'Église. C'est sa mission et qui le fait dans nos cœurs. C'est comme ça qu'on peut s'apercevoir de la présence de Jésus-Christ et le glorifier. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Il est même possible parfois d'utiliser l'Esprit en attendant de lui ce qu'il n'a jamais dit qu'il ferait. En réalité, tout est une question d'équilibre. L'Esprit ne va pas sans le Christ, et le Christ sans le Père, et vice-versa. Alors, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie ? Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il le fait par le Saint-Esprit. Son œuvre principale, elle consiste à nous transformer en l'image de Christ. C'est l'œuvre principale du Saint-Esprit. Nous transformer, et il enseigne. Le Saint-Esprit. Il instruit, il conduit dans la vérité, nous dit Jean, chapitre 16, versets 13 et 15 qu'on a lus. Il produit les fruits de l'Esprit dans notre vie. Et les fruits de l'Esprit, c'est les fruits qu'on trouve dans Galates, et c'est nos sujets de prière trimestriels, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la paix. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Et il accorde les dons et des capacités spirituelles pour le service du royaume. Et vous pouvez voir les passages dans 1 Corinthiens 12, verset 4, et puis plus loin les versets 7 et 11. Mais dans toute l'histoire du salut, il faut comprendre que l'Esprit Saint, c'est lui qui guide les hommes à la création. Il participe à la création du monde en donnant la vie à ce que le Père et le Fils ont créé. Genèse 1 et 2. Dans l'Ancien Testament, il choisit et équipe des hommes et des femmes pour le service de Dieu en leur accordant différents dons. De plus, c'est le Saint-Esprit qui inspire la parole des prophètes et c'est lui qui inspire les Écritures. Dans la vie de Jésus, l'Esprit Saint conçoit Jésus-Christ en Marie et il oint le Christ en vue de l'accomplissement de son ministère après son baptême, en harmonie avec la volonté du Père. Et puis dans la vie du croyant que nous sommes, des croyants que nous sommes, c'est l'Esprit qui œuvre intérieurement en nous. C'est lui qui nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. C'est lui qui nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés. Et le Seigneur nous dit que, à travers la bouche de Paul, que rien ne peut nous ravir de sa main. Nous sommes sauvés. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère et qui fait que on le chante, nos visages se reflètent sa beauté et se transforment sans cesse. Mais c'est ça, nous passons d'une gloire à une autre plus grande encore. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans l'Église, à la Pentecôte, l'Esprit est donné en abondance et d'une manière permanente à l'Église. Alors on verra pourquoi de cette manière et rapidement, mais afin d'être fidèle à l'enseignement de Christ et de pouvoir témoigner à l'œuvre du Père par le Fils Jésus-Christ dans le cœur des croyants. C'est lui et lui seul qui fait l'unité des croyants pour former un seul corps dont la tête est Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 13. Et dans le monde aujourd'hui, l'Esprit Saint suscite des hommes de paix et de bien partout et sans distinction. Voici l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, il y aurait tant à dire sur l'Esprit, et on n'aurait pas le temps là ce matin, mais juste aborder une chose, il y a trop de polémiques concernant l'Esprit Saint. Depuis le commencement de l'Église, les gens polémiquent à son sujet, comme il y en a eu au sujet de Jésus d'ailleurs. C'est les mêmes sortes de polémiques sur ces dons extraordinaires. Par exemple, qu'on voit le jour de la Pentecôte, qui sont donnés, ces langues de feu. Et j'ai une phrase que je veux vous dire encore ce matin, c'est « Il est aussi grave de dire que le Saint-Esprit n'accomplit plus de miracles de nos jours à travers son peuple que de dire à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit s'il ne parle pas en langue. » Voilà. Tout est une question, et c'est mon frère Étienne qui me l'a appris, de culture ecclésiale, d'une perspective que nous avons. Ce n'est pas très, très important. L'important, c'est de nous trouver ensemble, unis, d'avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ et de laisser le Saint-Esprit se mettre à l'œuvre pour faire l'unité, parce que c'est lui qui fait l'unité, ce n'est pas les hommes, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il faut certes être prudent et faire preuve de discernement, mais on a trop vite fait de juger les autres sur des aspects culturels extérieurs. La parole nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, et c'est Jésus qui le dit à ses disciples dans le sermon sur la montagne, en parlant du discernement des faux prophètes. Et les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il y a un écueil qui est celui de croire que tout à coup tout va changer. J'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser, je reçois le Saint-Esprit, et puis ma vie, elle a complètement changé. Votre vie, elle a complètement changé. Intérieurement. Notre nature a complètement changé. Mais il faut que ça se révèle. Alors, dans le cœur d'apôtre qui avait été pétri par les enseignements de Jésus-Christ, ça va vite. Mais dans le cœur de certains autres hommes, comme moi, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Connaissez-vous la différence entre participer et contribuer? C'est l'histoire d'une poule et d'un gentil cochon qui discutent du cadeau qu'ils pourraient faire au fermier pour son dîner d'anniversaire. C'était hier l'anniversaire de maman. La poule propose un œuf au bacon. Et le cochon, il réfléchit. Je vous rappelle que c'est un gentil cochon. Et puis qui dit, c'est une idée sympa. C'est une idée sympa. La différence, c'est que toi, tu vas contribuer au plat et moi, j'y participe. Mais c'est toute la différence. Le Saint-Esprit montre comment Dieu agit. Cette histoire montre comment Dieu agit. Il agit que lorsque nous pouvons lui donner notre vie. Comment le laisser faire ? Vous savez, il y a une grande différence entre un acte généreux et une personne généreuse. Un acte courageux et puis une personne courageuse. La plupart des gens sont capables, de temps en temps, de générosité, par un effort suprême de leur volonté, parfois. Mais il y a une différence quand on le fait tellement régulièrement qu'on n'y pense même plus. Il y a un auteur qui s'appelle C.S. Lewis, qu'on cite souvent, qui illustre cela comme de la manière suivante. Il dit « Même un joueur de tennis médiocre est capable régulièrement et est capable de faire un bon coup occasionnellement. » On pourrait prendre comme un joueur de golf aussi. Mais c'est très différent que de pouvoir le faire régulièrement, voire 9 fois sur 10. Et ce que nous entendons par un bon joueur, c'est un homme dont les yeux, les muscles et les nerfs ont tellement été entraînés à faire de bons coups qu'il peut faire confiance dans son corps lorsqu'il frappe la balle. C'est cette qualité plutôt que l'action qu'on appelle vertu. C'est toute la différence. Les fruits de l'esprit ou vertu chrétienne sont ces qualités de vie qu'on trouve chez les croyants, chez ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il faut les désirer. Il faut les désirer. C'est l'Esprit Saint qui les produit en nous et qui produit en nous le vouloir et le faire. Il y a une tradition dans la pensée morale chrétienne qui voit dans le disciple, en fait, quelqu'un qui obéit. Et c'est bien. C'est bien, c'est une idée qui est saine d'ailleurs, qui est soutenue par les Écritures, mais parfois cela conduit dans des mauvaises directions. Cela impliquerait que le comportement chrétien, eh ben, il n'est régi que par l'obéissance. Donc dans chaque choix que j'ai à faire ou action, ben, on prend le manuel pour savoir ce qu'on doit faire. Alors, je vous ai dit, c'est pas mauvais. Mais ça peut conduire vers certaines choses qui ne peuvent pas être très bonnes pour notre vie. L'obéissance qui force constamment la volonté peut conduire à l'amertume et à la frustration. Ce à quoi nous appelle Dieu, ce n'est pas une vie de frustration, une obéissance forcée. Bon, c'est écrit, donc je dois le faire. Hein? Comme si je demande quelque chose à ma fille et puis elle me fait oh, tu peux débarrasser la table. Bon, je débarrasse la table. C'est pas ça que j'attends d'elle. J'attends qu'elle dise ah ben je vais t'aider, papa. Voilà. Bien sûr. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est la nouvelle alliance. Dieu regarde au cœur et pas à l'action. Dieu regarde au cœur. Et pas à l'action. Et c'est Matthias qui m'a appris ça dans sa vie. Le handicap. On dit, quel cran d'action il fait. Je sais pas, mais quel cœur il a. S'il avait les possibilités, il les ferait, il le ferait. Ce n'est pas que l'action, elle ne soit pas importante, mais il veut que les cœurs changent. Il veut que nos cœurs l'aiment. Alors il faut laisser agir l'esprit comme il veut, et pas comme nous voudrions qu'il agisse. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, ça c'est la parole de fin qu'on lira ensemble. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, s'exclame Paul. Et ça, j'ai souligné, et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie du chrétien, c'est lorsque notre volonté, elle est exactement conforme à celle du Seigneur. Vous savez, quand vous faites quelque chose et vous savez que c'est la volonté de Dieu, et vous êtes heureux de le faire, à ce moment-là, vous avez la joie dans le cœur. C'est une joie qui vient d'en haut. C'est la joie de donner sa vie pour ses amis. C'est la joie que d'autres appelleraient le sacrifice. Mais nous, on l'appellera différemment. Parce que nous, c'est une joie que de vivre cela. Le monde appellera ça un sacrifice. Quelle liberté, frères et sœurs! Par le souffle de Dieu, l'Esprit Saint nous fait entrer, vivre, communier à l'amour même de Dieu. Toute la puissance d'aimer que les hommes ont pu déployer depuis le commencement, cette puissance d'aimer qu'on voit dans une mère avec son enfant, ou entre dans un couple passionné, des fiancés, des frères et sœurs, des amis. Mais tout cela, l'Esprit Saint le déploie dans nos cœurs. Pour aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Pour croire en la présence de quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est lui qui rend les choses visibles, les choses invisibles visibles. C'est lui qui nous fait percevoir le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, dit le psalmiste. Comme une ondée qui arrose la campagne. Ça, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Et cet amour, il est en nous, il est pour nous. Et est-ce que nous le permettrons d'agir ? Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Personne mieux que l'Esprit ne respecte notre liberté. Sinon, l'amour ne serait pas total et véritable. L'Esprit Saint ne fera rien contre votre volonté. Mais il n'y peut rien faire dans votre vie, dans notre vie, sans notre volonté. Il faut lui dire, et on a chanté un chant qui ressemble, « Seigneur, viens brûler mon cœur au feu de ton amour. » C'est à nous de décider ce que l'Esprit Saint veut faire avec nous. Si vous ne connaissez pas ces choses, ce matin, si vous dites, alors ça c'est nouveau, il faut refaire une démarche de repentance et demander par la prière à Dieu qu'il vous donne le Saint-Esprit encore. Le Saint-Esprit, il est là. Vous savez, c'est comme, je me souviens, il y avait Steve Petty qui avait donné ça comme image. Il avait pris un gant et puis il l'avait jeté par terre. Puis il le regarde et il attend qu'il bouge. Et le gant ne bougeait pas. Il dit pourtant, il y a quelque chose dedans, il y a de l'air, mais il ne bouge pas. Non, il faut mettre la main dedans. Alors il a mis sa main et puis il a rentré juste un doigt. Et ça n'a bougé qu'un seul doigt du gant. Ça, c'est l'effet du Saint-Esprit quand on le laisse agir dans un aspect de notre vie. Mais le Saint-Esprit va agir comme ça dans notre vie. Nous avons le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Est-ce que je le laisse agir dans tous les aspects de ma vie ? Est-ce que j'ai renoncé à tous ces aspects de ma vie que je veux garder pour moi ? Et moi, je vous le dis. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, dit le Seigneur. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ? Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci. Merci pour être monté au ciel et nous avoir envoyé l'Esprit Saint. Seigneur, nous avons conscience que dans notre raison que tu nous as donné l'Esprit Saint et qu'il habite en nous, et qu'il manifeste ta présence au milieu de nous. Seigneur, je te prie, nous te prions pour que nous apprenions à laisser plus de place à l'Esprit Saint dans nos vies. Qu'il manifeste encore plus ta présence, Jésus-Christ, tes sentiments, que nous puissions être par l'Esprit Saint semblables à toi, Seigneur. C'est ce que notre cœur désire. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui l'a mis dans nos cœurs. Merci pour cela, Seigneur. Merci de nous en rendre capables par ta puissance. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Je propose qu'on continue cette prière en chantant les chants.